Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David.
La troisième thématique qu'a choisi Philippe David, c'est le grand référendum. Philippe, entre 11h et midi avec vos invités. Et la thématique, c'est « Faut-il assouplir le secret médical ?»
Alors, c'est un sujet qui est vraiment prégnant puisque ça tombe 20 ans après la dernière fois où on a parlé du secret médical. Vous vous rappelez, il y a 20 ans, le grand secret. Livre écrit par le docteur Gubler qui était le docteur personnel de François Mitterrand presque jusqu'à la fin de sa vie, livre qui dévoilait les mensonges qu'il y avait eu sur l'état de santé du président de la République. Quand on parle secret médical, évidemment on repense à cette histoire où les communiqués avaient été falsifiés, mais on en parle en ce moment pourquoi ? Parce qu'il y a un décret qui est tombé le 22 juillet et qui fait que maintenant, certains professionnels de santé non soumis au secret médical pourront obtenir les dossiers médicaux des patients. Le grand témoin du jour, parce que désormais, dans le grand référendum, il y a un grand témoin, c'est Benjamin Lucas, président du mouvement des jeunes socialistes. Benjamin Lucas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Avant de donner la parole à mes deux autres invités qui vont débattre pour et contre le changement du secret médical, quelle est votre approche à vous ?
Moi, je crois que le secret médical est un fondement essentiel de notre société. Il est une garantie pour les patients actuels, les patients à venir. Et je crois qu'il faut toujours faire attention quand on cherche à ébranler comme ça des sources d'équilibre dans la société qui permettent à chacune et chacun de pouvoir aller voir son médecin et de pouvoir tout lui dire.
Alors, vous savez que ce décret, il est issu de la fameuse loi santé dont on a beaucoup parlé, une loi qui a été votée par le Parlement fin 2015. Vous êtes socialiste ? Je ne vous souhaite pas d'être malade, bien évidemment.
C'est là, gentil.
quelle est votre approche par rapport justement à cette loi santé qui a été votée par le projet de loi de Marisol Touraine?
C'est une excellente loi. Globalement, l'action menée par la gauche depuis 2012 en matière de santé, vous savez, les désaccords que peuvent avoir les jeunes socialistes sur la loi travail, sur la déchéance, etc. Mais sur cette question-là, la question de la santé, la gauche a fait beaucoup depuis qu'elle est arrivée au pouvoir pour l'accès à la santé, pour l'égalité dans ce domaine. Je crois que là encore, quand on déroge à des choses, c'est bien que ce soit encadré par un cadre légal, c'est bien que la loi soit là. Donc cette loi, c'est une bonne loi.
Alors, Benjamin Lucas, on va accueillir les deux invités. Vous pouvez bien évidemment participer au débat en tant que grand témoin du jour. Jean-Paul Hamon, bonjour. Jean-Paul Hamon ?
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Alors, quelle est votre approche ? Faut-il, oui ou non, assouplir le secret médical ?
Ben, certainement pas. Je suis d'accord avec le début de l'intervention de votre invité concernant
Benjamin
le secret médical. Il protège le patient et c'est capital de maintenir le secret médical. Et on peut qu'être inquiet avec la publication de ce décret concernant le partage des données parce que franchement, là, il y a un vrai risque de mise sur le marché. Et en ce moment même, il y a un colloque sur les dangers du secret médical qui est organisé par Philippe de Chazourne et la société MedOcean justement concernant le dossier médical qui a été mis en place à La Réunion avec un vrai risque même de commercialisation des données. Sur la deuxième partie de l'intervention, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Benjamin Lucas sur les bienfaits de la loi santé car les patients commencent déjà à se rendre compte que les mutuelles qui ont augmenté leur cotisation rembourse beaucoup moins les patients, premièrement. Là, le deuxième effet de la loi santé, on vient de découvrir avec la publication justement du partage des données santé, le décret concernant le partage des données de santé qui menace singulièrement le secret médical. Donc, et quant à l'accès aux soins, franchement, en donnant tous les pouvoirs à l'hôpital avec les groupements hospitaliers de territoire, on va freiner les installations de médecins libéraux sur le territoire et ça va être le vrai problème d'accès aux soins car les Français se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver un médecin traitant et ça s'arrange pas depuis 4 ans et que les délais de rendez-vous avec les médecins spécialistes sont de plus en plus longs et ça s'arrange pas non plus depuis 4 ans. Alors, le bilan de Marisol Touraine, excusez-moi, mais j'ai du mal.
Mais on va parler plus de l'assouplissement au nom du secret médical que du bilan de Marisol Touraine, Jean-Paul Hamon.
C'est Benjamin Lucas qui a mis le sujet sur la table.
Ou le doigt dans l'engrenage.
Je suis désolé.
Étienne Mainvielle, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes professeur des universités à l'école des hautes études en santé publique Gustave Roussy. Alors pour vous, faut-il assouplir le secret médical ?
Bah, moi je serais plus nuancé, oui. Je pense que la loi est pas si mal sans faire de politique. Parce qu'en fait, elle est équilibrée entre l'idée de respecter le secret de la donnée personnelle et le fait malgré tout d'avoir des données agrégées qui soient ouvertes à des traitements, notamment en termes de recherche. Moi, je voudrais juste en introduction souligner deux points. C'est que ces données sont quand même des gisements très importants pour comprendre comment évolue le système, comment maîtriser ses dépenses. Je tiens juste à rappeler que, par exemple, le Mediator, c'est grâce à ces bases de données qu'on a su le scandale. Donc,
mais on a mis un peu longtemps quand même.
Oui, oui, bien sûr, mais enfin, heureusement qu'elles étaient là pour comprendre, vous voyez. Donc ça a une vertu de savoir et de connaissance sur le système qui est indéniable. La deuxième chose, c'est que, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais quelque part, il y a un petit paradoxe dans le sujet, parce que on se focalise beaucoup sur les bases de données médico-administratives, et puis il y a quand même un mouvement de fond avec le numérique où on laisse tous les jours des données à titre personnel, que ce soit sur des forums communautaires comme Doctissimo, ou que ce soit sur Google, ou sur Twitter, ou Facebook.
Les réseaux sociaux.
Et tous les réseaux sociaux, exactement. Et d'une certaine façon, il pourrait y avoir un paradoxe à très court terme, c'est-à-dire d'avoir des cadres très légaux, rigides, encadrant l'accès à ces données d'un côté, et d'un autre côté, un monceau de données qui circulent sur le net sans qu'il y ait aucune régulation. Donc il y a, si vous voulez, moi je pense qu'il faut être très équilibré et avancé par rapport à ces phénomènes de société. De ce point de vue-là, la loi est pas mal avec ces deux étages, c'est-à-dire un premier niveau où on protège vraiment le recours à l'anonymat et le respect de l'anonymat d'un patient donné, et puis une ouverture en open data des bases de données.
Benjamin Lucas, vous avez entendu le préavis de Jean-Paul Hamon et d'Étienne Mainviel. Vous êtes plutôt Jean-Paul Hamon, plutôt Étienne Mainviel, pardon, plutôt pour, plutôt contre, ou allez, mi-chèvre, mi-chou?
Non, moi je l'ai dit, je suis très attaché au respect du secret médical. Je connais pas le détail de cette loi, donc savoir si l'encadrement...
C'est un décret, on va en parler
ce décret, justement, mais si le décret permettra une véritable protection. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire très attention quand on assouplit le secret médical. C'est ce que a proposé le ministre de l'Intérieur en Allemagne pour lutter, par exemple, contre le terrorisme. Et je crois que si on ouvre la brèche de l'assouplissement du secret médical, on s'enferme dans une spirale où du coup demain on n'aura plus confiance quand on ira chez son médecin. Ça, je crois que c'est un vrai danger.
Allez, vous pouvez voter sudradio.fr, vous pouvez intervenir sur l'antenne également pour partager votre opinion avec nos invités en plateau, 0826 300 300. Claire, sur sudradio.fr.
Alors 33%, vous êtes 33% à répondre oui, 67% à répondre non.
67%, faut-il assouplir le secret médical? Non, 67%. Vous continuez, on verra l'évolution de ce sondage et le retour de nos invités dans un instant sur Sud Radio, dans le grand référendum de Philippe David.
Sud Radio,
le grand référendum, 11h midi.
Philippe David.
Et ses invités, le thème choisi ce matin, faut-il assouplir le secret médical? Voilà qui fait bondir, réagir également sur les réseaux sociaux et sur internet, le site sudradio.fr. Nos invités ce matin pour débattre de cette question du secret médical et de cette levée potentielle avec Philippe David, Benjamin Lucas, le président du mouvement des jeunes socialistes, Étienne Mainviel, qui est professeur des universités à l'école des hautes études en santé publique Gustave Roussy, et puis Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, Philippe.
Alors pour reconceptualiser ce décret, parce qu'il faut bien en parler, c'est un décret qui a été publié le 22 juillet, il y a donc un mois et demi, et il permet désormais à de nombreux professionnels, dont certains ne travaillent pas dans le domaine de la santé, d'accéder aux informations contenues dans le dossier médical d'un patient. La liste figure dans ce décret, et on y trouve par exemple les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychothérapeutes, les aides médico-psychologiques, mais aussi les assistants des services sociaux, les accompagnants éducatifs et sociaux, les assistantes maternelles et familiales et les salariés des lieux de vie. Bref, que des gens non soumis au secret médical. Jean-Paul Hamon, comment peut-on expliquer que des gens non soumis au secret médical puissent avoir accès à un dossier médical?
Alors c'est ça qui nous a fait, c'est ça qui a déclenché la levée de bouclier. Vous savez, on est extrêmement sensible au secret médical, et quand le dossier médical personnel s'est mis en place, enfin qu'on a voulu le mettre en place en 2004, On avait imaginé que les données seraient stockées, cryptées, et qu'elles soient décryptées sur le poste du praticien en présence du patient. On voit bien que là, on en est loin. Mais comme a souligné mon collègue...
Étienne Maviel.
Comme il l'a souligné, effectivement, on est à l'ère de Facebook où on se demande ce que les jeunes protègent encore de leurs données. On sait ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils prennent comme médicaments, on sait ce qu'ils ont comme pathologie, ils mettent ça sur Facebook, c'est partagé, c'est connu de la terre entière. Et je pense qu'il est du devoir des médecins quand même de continuer de protéger le secret médical parce que derrière, il y a Google Earth qui veut faire un dossier médical quasiment universel. On imagine la commercialisation des données de santé. Apple veut s'y mettre aussi. Donc, je pense que
Jean-Paul Hamon, c'est un peu Big Brother.
Mais exactement. Et donc, c'est notre devoir de médecin de dire que les données médicales doivent être protégées, qu'on ne doit pas mettre ça sur la place publique et qu'on ne doit certainement pas les commercialiser. Et c'est pour ça que les médecins de La Réunion sont très remontés parce qu'il y a incontestablement un danger de commercialisation. Quand vous savez que le DMP de La Réunion, ça n'est pas un care manager qui gère le dossier, mais un case manager, donc carrément un commercial.
Alors, le DMP, c'est le dossier médical personnel, c'est-à-dire, on va appeler ça schématiquement le carnet de santé dématérialisé, ça va comme ça ?
Oui, c'est si vous voulez, mais quand à La Réunion, on est en train de filer des montres connectées, des balances connectées aux patients diabétiques, hypertendus, cardiaques et compagnie pour connaître leur activité. Or, quand vous voyez que le partage des données, il va être avec les services médico-sociaux. Alors, avec la sécurité sociale, on est tranquille, car il n'y a jamais eu de fuite de la part de la sécurité sociale, car les gens de la sécurité sociale sont assermentés. Mais à partir du moment où on veut étendre ça à d'autres professionnels de santé qui ne sont pas tenus au secret médical, je vous rappelle que les gens des mairies qui reçoivent vos arrêts de travail ou les gens des hôpitaux qui reçoivent vos arrêts de travail quand vous travaillez dans une mairie, une administration ou un hôpital, ils ne sont pas assermentés. Et donc,
d'accord,
moi, je me suis toujours abstenu de mettre les motifs d'arrêt de travail pour ces patients-là. Parce que théoriquement, on est tenu de mettre les motifs d'arrêt de travail. Donc, si vous voulez, il faut penser secret médical en permanence. Et il faut penser à protéger le patient en permanence. Et c'est vrai que le vrai danger, on l'a souligné, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est une espèce d'indécence généralisée qui fait que, bon, on dit que c'est pas important si on met quelque chose. C'est important, et le rôle du médecin, ça doit être de protéger le patient.
Étienne Mainviel, vous êtes professeur des universités à l'école des hautes études en santé publique Gustave Roussy. Est-ce que vous, ça vous pose pas problème, pourriez pas être d'accord avec Jean-Paul Hamon, tiens, que des gens qui ne sont pas soumis au secret médical puissent disposer de vos données médicales personnelles ? Ou de celles d'autrui, bien sûr.
Je comprends la réaction de Dr Hamon, c'est un collègue, puisque je suis aussi médecin, mais... Je pense qu'il y a deux sujets dans le débat. C'est qu'il y a un sujet lié à la coordination interprofessionnelle qui fait l'objet justement d'ailleurs du décret que vous évoquez et des paramédicaux. Et ça, c'est autre chose que les assureurs. C'est-à-dire que c'est le partage d'une donnée le long du parcours de santé d'un patient. Or, on sait aujourd'hui que dans le système de soins, le point majeur qu'il faut changer et faire évoluer, c'est une meilleure coordination dans le parcours des patients. Le système français, comme tous les autres systèmes modernes de santé, sont trop fragmentés et manquent de coordination. Donc, si vous n'avez pas un échange d'informations entre toutes les personnes concernées autour d'un patient, que ce soit évidemment le médecin référent, mais aussi les kinés, les infirmières, les services sociaux, vous persister dans ces démarches où on a un manque de coordination et des patients qui en souffrent, parce que on a énormément de témoignages maintenant d'expériences malheureuses de patients qui disent que ils vont d'une étape à l'autre et que c'est plutôt le parcours du combattant. Donc de ce point de vue-là, l'échange de l'information dans un dossier médical partagé, moi je trouve que c'est assez ça. Après, il y a un deuxième débat qui est ce qu'on a évoqué en introduction, c'est le partage du secret avec d'autres interlocuteurs et notamment des assureurs et des questions...
On va en parler.
Des questions d'objectifs commerciaux. Moi, je terminerai juste là-dessus. Moi, je suis malheureusement pas sûr que le secret médical existe encore. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens...
Ça, ce que vous dites, c'est inquiétant, par contre.
Non, mais... Quand vous laissez de l'information, encore une fois, tous les jours, sur Twitter, Facebook, Google, ou que vous rentrez dans des forums communautaires, vous laissez l'information personnelle. Et je peux vous assurer, non pas en France, parce que je pense qu'on est dans des démocraties qui sont raisonnables, mais aux États-Unis, vous avez effectivement des usages abusifs. Je vous donne un exemple d'une compagnie d'assurance privée nord-américaine qui, quelque part, utilise les bons d'achat en alcool, tabac, sur les cartes de crédit pour comprendre si les assurés ont des comportements raisonnables d'un point de vue alimentaire et d'hygiène. Bon, on est en France dans un contexte beaucoup plus réglementé et je pense que, si vous voulez, la question du secret médical, d'avoir une position trop marquée, ne répond pas à l'évolution de notre société à l'heure actuelle.
Benjamin Lucas, vous en pensez quoi que des personnes non soumises au secret médical, et je rappelle que vous êtes président du mouvement des jeunes socialistes, puissent avoir vos propres données médicales? Tiens à vous.
Moi, je comprends l'argument qu'il faille trouver une coordination dans le parcours du patient, mais effectivement, on ne peut pas transmettre des informations pour lesquelles ceux qui sont au début de la chaîne sont soumis au secret et à la fin, d'autres ne le sont plus. Et si y a un problème aujourd'hui de secret médical qui est levé sur les réseaux sociaux, etc., qui est attaqué, bah, justement, essayons de le renforcer, ce secret médical, essayons de le protéger davantage et pas de l'affaiblir encore plus.
Réaction peut-être au standard, si vous souhaitez intervenir, posez vos questions à nos différents invités, 0826-300-300, Claire, les chiffres.
Alors, vous êtes 32% à être d'accord pour assouplir le secret médical, 68% ouais. Répondent non.
Ça augmente effectivement parce que c'est inquiétant, hein, mine de rien. Vous pouvez continuer, 0826-300-300, sudradio.fr. On marque une respiration, comme on le disait à l'époque. Et on revient juste après.
Sud Radio.
Le grand référendum. 11h, midi.
Philippe David.
Question, faut-il assouplir le secret médical? Réaction tient de Claude par SMS 71-200 code sud. Philippe, Claude qui nous dit, alors demain si je veux acheter une maison, lorsque je devrais monter mon dossier de crédit, la banque aura donc accès à l'intégralité des documents me concernant sur ma santé en particulier.
Ah oui, parce que Étienne Mainviel nous a appris quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on se servait de vos cartes de crédit pour voir sur vos tickets de caisse si vous achetiez de l'alcool, si vous achetiez du tabac, etc. Jean-Paul Hamon, quand on entend ça, c'est terrifiant, vous trouvez pas? Parce que on peut se demander.
C'est la réalité des choses. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de voleurs qui se contentent de regarder Facebook et de voir si vous êtes au Mali, à Tahiti ou aux Maldives, et ils vont visiter votre appartement tranquillement.
Donc, c'est vrai aussi.
Facebook, c'est très intéressant, mais il faut sensibiliser les gens au fait que tout est exploitable. Et à partir du moment où vous avez une mutuelle qui est également une assurance, ça m'étonnerait que leur système soit étanche. Et que ce que vous rembourse la mutuelle, l'assurance le sait. Si vous avez été hospitalisé, si vous avez... Vous voyez ? Donc, incontestablement, les gens doivent être extrêmement prudents. Alors, de là à dire qu'il faut aller retirer de l'argent en liquide et payer tout en espèces pour pas être surveillé, c'est oublier aussi que si vous êtes à Levallois, vous êtes filmé, que si vous êtes à Issy-les-Moulineaux, on sait ce que vous lisez à la bibliothèque et on sait combien de temps vous avez mis à le lire, que si vous payez avec votre carte bleue, eh bien mon Dieu, on sait ce que vous avez acheté, dans quel parking vous êtes allé, dans quel restaurant vous êtes allé, et si vous êtes avec votre carte vitale, on sait quel médecin vous êtes allé consulter et quels médicaments vous avez pris. Donc incontestablement, il faut penser à protéger les données des patients. Et c'est pour ça que nous trouvons que le décret est particulièrement dangereux. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une continuité, une coordination des soins. D'ailleurs, nous avions demandé lors de la signature de la convention médicale que cette coordination des soins-là soit nettement revalorisée, car faire un résumé de dossier, faire en sorte que à chaque fois qu'on écrit à un correspondant ou qu'on hospitalise quelqu'un, que le médecin connaissent les coordonnées exactes du patient, ses allergies, ses intolérances, une ligne d'antécédent, une ligne de vaccination et le traitement en cours, c'est suffisant pour prendre en charge correctement un patient en évitant les accidents.
Mais Jean-Paul Hamon,
on est en train de faire un open data pour faire des statistiques. On sait ce que vont faire les statisticiens. Hein. Vous savez, là, à La Réunion, ce sont des sociétés commerciales qui montent le dossier personnel. Et ça n'est pas pour les 20 millions d'euros. C'est qu'ils sentent qu'il y a un potentiel et qui ne vont pas s'en priver.
Réaction, Philippe, au standard 0800 26 300 300. Je ne sais pas si Nicole est avec nous. Bonjour, Nicole.
Bonjour. Voilà, excusez-moi, j'interviens parce que je pense à la déontologie du médecin. Moi, j'étais éducatrice et nous avions la déontologie de ne pas révéler quoi que ce soit par rapport à notre clientèle. Voilà. Alors donc, moi, je suis pour préserver. Par contre, quand un médecin a un remplaçant, j'estime, quand il prend ses congés, j'estime normal qu'il il indique à son remplaçant pour Madame Entel, etc. Il y a ça de primordial, il y a ceci et cela.
Mais vous dites en substance, pardon.
Ce que je voulais souligner, Nicole, c'est que dans la mentalité française, il y a une certaine forme d'omerta, disons-le clairement, d'omerta. Les gens ont peur de dire ce qu'ils ont. Moi, je ne sais pas, j'ai eu un cancer du sein et je serais allé prendre un crédit à ma banque, j'aurais dit, j'ai eu ça. Voilà.
Tandis mais on ne vous l'aurait peut-être pas octroyé. Nicole, on ne vous aurait peut-être pas octroyé le crédit non plus.
Peut-être, mais l'honnêteté, moi je trouve que c'est primordial, c'est une autre forme de déontologie à un autre niveau, c'est normal.
Oui, mais Nicole, imaginons, vous avez eu un cancer du sein, vous en êtes sorti, parfait, mais imaginons que demain vous vouliez acheter une maison, vous allez voir un banquier et vous faites preuve de déontologie, comme vous le dites, et la déontologie, on est d'accord, c'est un truc important, et le banquier vous dit, eh bien écoutez madame, vous avez été malade, j'ai peur que vous récidiviez, donc je ne vous donne pas de crédit, vous allez faire ça une banque, deux banques, trois banques, et puis à la quatrième, comme vous avez envie d'acheter cette maison, vous n'allez peut-être plus faire preuve de la même déontologie et pas dire la vérité.
J'ai été élevée comme ça. D'ailleurs, dans ma boîte où je travaillais, le psychiatre m'a dit « Nicole, vous avez un gros défaut, vous êtes trop franche. » Alors moi, j'ai toujours dit « Écoutez, j'ai été élevée comme ça, je dis ce qui est. » Moi, je ne suis pas pour truander. J'ai été élevée comme ça, que vous voulez, peut-être c'est bête. Hein. Bon, j'ai 75 ans, il est évident que j'ai un passif, une expérience. Et je revendique toujours ma franchise.
Nicole, Benjamin Lucas, a priori, est aussi quelqu'un de très franc, donc il veut réagir à vos propos.
Moi, je respecte parfaitement la franchise de Nicole, mais je crois que justement, le choix de dire ou non si on a été malade, ou de dire ou non quel est son état de santé, doit relever de la liberté individuelle. Et donc, si on a envie de dire à son banquier, à son voisin, à son enseignant, qu'on a souffert d'un cancer, ou qu'on souffre d'un cancer, ou d'une maladie quelconque, on doit pouvoir le faire, mais aussi, si on a envie de préserver son intimité, sa vie privée, on doit aussi pouvoir le faire. Et sur l'exemple qui était cité sur la question des prêts, sur la question des banques, il y a aujourd'hui une vraie discrimination vers les personnes qui ont été malades. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir eu une maladie, être parfaitement guéri, vous aurez plus de difficultés à avoir un crédit que si vous aviez été parfaitement en bonne santé. Et je crois que ce n'est pas acceptable aujourd'hui.
Étienne Mainvielle, vous avez entendu Nicole, vous avez entendu Benjamin Lucas. Nicole, si une va voir une banque, deux banques, trois banques et qu'on lui refuse son crédit parce qu'elle parle vrai, il y a quand même un léger problème, non ?
Oh non, pas du tout.
Non, c'était Étienne Mainvielle. C'était Étienne Mainvielle de jouer la réaction. Étienne Mainvielle.
Moi, je trouve le témoignage très intéressant, évidemment très respectable. Je tiens à rappeler d'ailleurs qu'il y a quand même aussi dans les lois Touraine actuellement la notion de droit à l'oubli. C'est-à-dire cette idée que quand vous avez eu une pathologie, notamment un cancer, au moment de votre réinsertion professionnelle, on oublie de mentionner l'information légalement. C'est-à-dire que la personne n'est pas obligée de le mentionner et que les interlocuteurs dans la vie professionnelle ne sont pas obligés de le demander. Et ça, je crois que c'est très précieux aussi comme évolution. Mais dans le propos de Nicole, ce que je trouve très intéressant, c'est cette idée de transparence. Parce que c'est à mon avis le cœur du sujet sur le secret médical. C'est une transparence qui est nécessaire à double titre à mon avis, ce qui ne veut pas dire de le remettre totalement en cause, mais de l'assouplir comme le titre de votre émission le mentionne. Un, dans les parcours, quand vous dites, Nicole, que le médecin traitant, quand il s'en va, doit donner en remplaçant l'information, bah maintenant on est dans des systèmes où il y a plusieurs professionnels qui sont concernés, des personnes qui sont parfois en polypathologie, âgées de plus de 75 ans, je vous rappelle les phénomènes de vieillissement de la population, ce sont des parcours qui sont devenus complexes. Si l'information n'est pas partagée entre plusieurs professionnels, plus des services sociaux, c'est le patient qui en pâtit. Ça, je pense que c'est la première notion. Et puis il y a une notion de transparence collective, on parle de démocratie sanitaire en France, c'est cette idée quand même qu'il n'y ait pas une médecine à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui sont initiés et qui savent comment ça se passe et ceux qui ne savent pas. Et de ce point de vue-là, le traitement des bases de données, tout en respectant l'anonymat à l'échelon individuel, est très sain, me semble-t-il, pour qu'on puisse, d'un point de vue démocratique, savoir comment se déroule le système de soins et où sont les bons hôpitaux, où se passent les bons parcours de santé.
Jean-Paul Hamon, vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Vous avez entendu le témoignage de Nicole, notamment sur les banques. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Écoutez, c'est bien joli, le droit à l'oubli, seulement moi je peux vous dire que si quelqu'un a eu un cancer ou si quelqu'un a été séropositif, eh bien clairement...
Enfin séropositif, on le reste ça, hein, par contre, hein, là c'est...
Ça devient vraiment une galère pour obtenir des prêts. Et simplement si quelqu'un fait état d'une hypertension ou d'une fracture, eh bien je peux vous dire qu'il va y avoir une exclusion des garanties, et ça je le vois quasiment de façon hebdomadaire quand les gens font un prêt ou qu'ils veulent changer de mutuelle et compagnie. Donc là clairement le droit à l'oubli, c'est très joli, ça fait très bien dans un discours électoral, mais malheureusement c'est une illusion. Quand vous êtes assuré dans une mutuelle qui fait à la fois des assurances, je peux vous dire que le droit à l'oubli, il sera bien mis dans un coin, et le jour où vous aurez un sinistre, ils sauront s'en souvenir.
Mais justement, Jean-Paul Hamon, le problème, c'est pas qu'aujourd'hui, les assureurs sont souvent banquiers, et vice-versa.
Oui, c'est pas un problème. Non, mais bien évidemment, c'est-à-dire que les mutuelles qui vous couvrent de moins en moins, qui vous augmentent les cotisations et dont les remboursements diminuent, parce que là les Français commencent aussi à se rendre compte de l'effet de la loi de Marisol Touraine.
On va en parler.
Les mutuelles sont aussi souvent des assurances, et donc là quand vous avez un prêt à faire. Ils s'en souviennent. Et le droit à l'oubli, je peux vous dire qu'il n'existera pas. Alors là, je suis tranquille là-dessus.
Étienne Mainviel, pour vous, le droit à l'oubli, vous y croyez vraiment ?
Je crois que c'est une évolution. On ne peut pas préjuger de la mise en œuvre. On peut dire la critique qui vient d'être évoquée, elle peut être portée sur tous les sujets, si vous voulez. Moi, je crois que c'est quand même un élément assez clé maintenant dans toutes ces pathologies, de pouvoir avoir des réinsertions professionnelles qui soient assurées, et que de ce fait, on ait ce cadre juridique. Pour le coup, il est utile. Mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est que on voit d'ailleurs le phénomène dans des pays beaucoup plus agressifs qu'en France sur ces questions de comportement abusif, sur la levée du secret médical, notamment aux États-Unis. Et un des constats que font pas mal à l'heure actuelle de décideurs, c'est qu'on peut mettre n'importe quel cadre juridique, et on va avoir le problème en plus amplifié dans les prochaines années avec les données génomiques, ça ne marche pas quelque part. Il y a toujours une fuite. Et donc, il faut trouver des modes de régulation complémentaires. Et par exemple, aux États-Unis, ce qui est réfléchi, c'est au-delà d'avoir un cadre juridique qui respecte le secret médical, c'est aussi de réfléchir à des systèmes, par exemple, qui labellisent les usages des données médicales à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'on essaye de prévenir les comportements abusifs avec des gouvernements fédéraux qui donnent des accréditations en disant « ce système, par exemple un forum communautaire comme Doctissimo, pourrait avoir un label un jour en disant « ce système utilise votre information médicale, mais à des fins constructives et positives ». Et je crois qu'on pourra toujours avoir ces débats sur le cadre juridique, oui, non, secret médical. On a des phénomènes de société majeurs avec l'accès à l'Internet et les transmissions d'informations qu'on n'imaginait pas il y a 10-15 ans. Et il faut qu'on fasse preuve de créativité, un cadre juridique certainement, mais aussi d'autres formes de régulation sur l'emploi de l'information médicale dans la société.
Ceci dit, quand vous dites « à des fins constructives et positives », la frontière est quand même très très fine, hein ?
C'est subjectif.
C'est assez subjectif, ouais.
Non, parce qu'en fait, on voit très bien, il y a des systèmes nord-américains. Vous avez par exemple un système nord-américain qui s'appelle Blue Bottom, où il y a plus de 100 millions d'assurés américains qui ont leur dossier médical qui est partagé par tous les médecins, les professionnels et aussi les assureurs. Vous imaginez bien que s'il y a des comportements abusifs dans un système comme ça, ça pénalise même commercialement la société, parce que vous le faites une fois, deux fois, mais à long terme, vous perdez complètement tous les assurés. Et donc, il peut y aussi avoir un enjeu de cette nature. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, ces dernières années, qui ont plaidé sur ce qu'on appelle la confiance numérique et dans l'emploi d'une donnée qui est justement, qui garantit tout le secret médical et tout ce qu'on vient d'évoquer, et qui en ont fait un avantage concurrentiel. Donc, il ne faut pas forcément voir ça comme toujours un dragon et le côté négatif et effrayant. Il peut y avoir aussi l'idée que ça peut devenir aussi un enjeu très très fort pour une mutuelle d'expliquer à ses patients et à ses assurés que l'emploi de leurs données, elle est faite pour améliorer les parcours de santé et pour qu'il y ait une meilleure connaissance des besoins des patients et des réponses qu'on peut apporter.
Benjamin Lucas, je sens que vous voulez réagir sur cette possible mercantilisation des données médicales et sur le droit à l'oubli.
Oui, mais d'abord, je crois que le droit à l'oubli, c'est un premier pas essentiel, mais effectivement, il faudra aller beaucoup plus loin. On doit absolument tout faire, même si la société évolue, mais pour refuser que nos données médicales, c'est-à-dire notre vie, notre intimité, notre vie personnelle,
la plus intime,
puisse devenir l'objet d'un commerce quelconque. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas transiger. On parlait tout à l'heure de démocratie sanitaire. Bah, effectivement, en faisant en sorte de protéger les plus faibles face aux puissants, parce qu'aujourd'hui, les assurances, les grands groupes, moi, je pense pas que l'exemple américain soit aujourd'hui un exemple à suivre. Vous le rappeliez en début d'émission sur ce qu'on fait avec les données des cartes bleues, etc. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur.
On le fait peut-être en France d'ailleurs aussi.
On le fait d'ailleurs sans doute peut-être en France aussi. Vous avez rappelé ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous avez rappelé la connaissance qui circule. Encore une fois, qu'il y ait de la coordination. Mais là, ce qui est reproché dans cette histoire, c'est pas qu'il y ait de la coordination entre des équipes soignantes, c'est qu'il y ait des informations qui arrivent à des gens qui ne sont pas soumis au secret. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas étendre le champ du secret médical? Voilà, quelque chose qui pourrait garantir un équilibre entre le partage, l'évolution, qui permet effectivement à un patient, puisqu'aujourd'hui on a aussi plus de spécialistes, plus de recours peut-être à des médecins différents, de garantir la coordination. Sans pour autant mettre à mal le secret médical.
On était à 67% de non à la question « Faut-il assouplir le secret médical ?» sur sudradio.fr, Claire.
Oui, alors nous sommes actuellement, vous êtes 67% à dire non, toujours.
Voilà, donc ça n'a pas bougé pour l'instant.
Ça n'a pas bougé en fait,
voilà,
et 33% à dire oui.
Eh bien vous continuez, sudradio.fr, 0826 300 300 si vous souhaitez intervenir. Nous revenons dans quelques instants sur Sud Radio, le grand référendum de Philippe David à suivre.
Sud Radio,
le grand référendum. 11h, midi.
Philippe David.
Et si votre dossier médical était disponible au plus grand nombre? C'est un petit peu la question que l'on vous pose. Faut-il assouplir le secret médical? 67% de non pour l'instant sur sudradio.fr. Le sondage peut évoluer. C'est le grand référendum de Philippe David et ses invités.
Et mes deux, ce ne sont pas mes deux contradicteurs, mais les deux débatteurs sont Étienne Mainviel, professeur des universités à l'école des hautes études en santé publique Gustave Roussy, et Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Il y a quelque chose dont on a parlé en voyant ce nouveau décret, c'est le fameux DMP, le dossier médical personnel. Concrètement, bon, c'est le carnet de santé informatisé. Il a été lancé en 2011 et il ne concerne pour le moment que 580 000 Français sur 66 millions d'habitants. Étienne Mainviel, comment expliquez-vous ce peu d'engouement pour le DMP, le dossier médical personnel? Est-ce parce que les patients auraient peur de voir leurs données divulguées?
Je ne sais pas, pour répondre à votre question, de combien de temps on dispose dans votre émission, parce que là, il y en a pour des jours et des jours à parler du DMP. C'est un peu une arlésienne.
Un serpent de mer, mais c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème, c'est une histoire qui est une succession de difficultés rencontrées, avec peut-être une phase plus positive à l'heure actuelle qu'il y a quelques années, d'une manière paradoxale, parce que maintenant le DMP est pointé plutôt comme un échec des politiques publiques sur les dernières années. Moi, je crois que ce qui est en train de se passer sur le DMP, c'est que justement avec le numérique, on va passer au-dessus de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des dossiers avec de l'information par Internet beaucoup plus facile à échanger, et que d'une certaine façon, tous ces débats sur l'échange du DMP, techniquement en tout cas, seront très facilement surmontables. Après, il y a des résistances qui peuvent exister professionnelles. Sur l'échange de la donnée, moi je vous ai exposé mon point de vue.
Diriez-vous corporatiste ?
Oui, j'irai pas jusque-là, mais il y a une habitude historique, si vous voulez, de dire c'est mon dossier, ce sont mes patients et je garde cette information. Je pense que c'est très néfaste à l'ensemble du système, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Je pense qu'un des grands enjeux auxquels on est confronté et auxquels surtout nos citoyens sont confrontés, c'est le parcours coordonné. C'est-à-dire que les patients sont des patients qui ont plusieurs interlocuteurs maintenant dans leur parcours de santé, un médecin généraliste, des médecins libéraux, des recours à des médecins hospitaliers, à des établissements de santé, du médico-social. On a un vieillissement de la population qui fait que ces parcours sont devenus très complexes. Si on n'a pas une information partagée entre professionnels, je pense qu'on va dans le mur. Je voudrais juste vous donner une statistique, c'est qu'on sait maintenant de plus en plus, c'est documenté dans des études très sérieuses, que le principal poste de dépense dans les systèmes de santé, c'est le défaut de coordination. C'est-à-dire que c'est des hospitalisations injustifiées, des doublons de prescription, des mauvaises orientations, et je ne parle pas de, sans vouloir effrayer, mais de questions de iatrogénie et d'erreurs médicales.
Et donc, qu'est-ce que la iatrogénie, s'il vous plaît ?
La iatrogénie, c'est le fait que, par exemple, vous arrivez avec une ordonnance à l'hôpital, on transforme cette ordonnance avec des produits hospitaliers et la correspondance se fait mal. Et donc, on vous donne les médicaments, mais pas forcément les mêmes que ce que vous aviez avant. Les mêmes choses à la sortie. Et ça, c'est des défauts de coordination, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien contrôler l'information entre ce qui se passait avant l'hospitalisation et pendant l'hôpital. Donc ça, il faut que l'information circule beaucoup plus entre les professionnels pour qu'on puisse éviter ces problèmes.
Jean-Paul Hamon, vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Comment expliquez-vous ce peu de succès 2011? Ça fait 5 ans qu'il a été lancé pour le DMP.
Le DMP existe depuis 2004. On a dépensé 500 millions d'euros pour des prunes. Donc, il y a un moment où il faut arrêter ça. Il y a déjà 65 000 médecins qui utilisent en France une messagerie sécurisée qui s'appelle Apicrypt, qui fonctionne parfaitement bien, qui est totalement sécurisée, totalement confidentielle. Et je rappelle quand même, et ça je voulais vous donner quand même comme exemple, les dangers du dossier. Quand vous êtes en Normandie et que vous voulez vous faire embaucher par une société automobile française, vous donnez votre carte vitale à la médecine du travail, et bien si vous êtes à 100%, vous n'êtes pas embauché. Donc, il faut savoir ça.
C'est-à-dire
sur la carte vitale figure si vous avez une affection longue durée ou pas, pour laquelle vous êtes pris à 100%. C'est la seule chose qui figure sur la carte vitale. Et c'est visible, vous avez votre numéro de sécu et vous savez si vous êtes pris à 100% ou pas.
Il y a votre pathologie. Alors, excusez-moi, je vous pose une question qui peut intéresser beaucoup de monde. Le diabète, vous êtes pris à 100%.
Le diabète, vous êtes pris à 100%. Et bien, si vous
avez... Donc, si quelqu'un qui est diabétique ne serait pas embauché.
Voilà, exactement.
Vous êtes... C'est hallucinant ce que vous dites.
Embauché. Ça veut dire que l'employeur... Ah bah oui, c'est terrifiant. Et ça fait quelques années que ça dure. Donc, si vous voulez, là-dessus, le DMP, j'y ai assisté à ça depuis 2004 parce que j'avais déployé une messagerie sécurisée justement dans mon territoire pour sécuriser la prise en charge des patients. Je recevais les résultats de laboratoire par Internet, les résultats de radio, les résultats de cardio, les comptes rendus opératoires, les résultats de biopsie, etc. Et j'intégrais ça dans le dossier de mon patient. Et donc, j'ai obtenu d'être présent au lancement du DMP. Et j'ai assisté à la gabegie, aux exigences, au poids de l'administration. Et 12 ans plus tard, on a dépensé 500 millions pour un résultat nul, avec une grande méfiance à l'égard de l'administration et une grande méfiance à l'utilisation des données de santé. Voilà la réalité des choses. Donc, il y a une messagerie sécurisée qui existe, qui pourrait être généralisée France entière pour moins de 24 millions d'euros en moins de 6 mois. On freine.
Et là, on a dépensé 500 millions d'euros.
Et là, on a dépensé 500 millions d'euros pour des prunes. Et là, je peux vous dire que le coût de la carte vitale plus les 500 millions d'euros, sans compter qu'il y a eu d'énormes conflits d'intérêts à la tête du DMP les dernières années, que c'était un vrai scandale.
Mais ce que vous dites, Benjamin Lucas, vous entendez ? Vous êtes diabétique, on ne vous embauche pas ? C'est terrible ce que dit le docteur Jean-Paul Hamon.
Ouais, j'avais pas connaissance de cela, mais en tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il y a, ouais, y a au moins des lois qui protègent. Comment ?
Allez-y.
Je pourrais donner le nom de la société hors antenne. J'ai pas.
Pas de souci. Pas de souci.
Dans ce cas, je pense qu'il y a des actions justice qui sont possibles.
Non, pas assez puissant.
Non, mais dans ce cas, je pense qu'il y a des actions justice qui sont possibles, une dénonciation qui est possible, parce que je crois qu'il ne doit pas être permis, qu'il ne doit pas être toléré.
C'est terrible, vous êtes diabétique,
quelqu'un.
C'est une pathologie, on peut travailler en étant diabétique.
Tout à fait.
Étienne Mainviel, vous étiez au courant, vous avez entendu Jean-Paul Hamon, on voit sur votre carte vitale que vous êtes diabétique, donc pris à 100%, vous n'êtes pas embauché. C'est terrible, c'est terrifiant, je l'imaginais même pas.
Étienne Mainviel. Je ne suis pas tout à fait convaincu parce que je pense que la carte vitale est quand même protégée. Donc, si vous voulez, elle est entre professionnels. Et l'assurance maladie fait un travail, on peut toujours critiquer, mais l'assurance maladie fait un travail avec la CNIL qui est très important. Donc,
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Je pense que c'est pas la carte vitale, si vous voulez, en tant que telle. C'est une fuite après de professionnels ou Dieu sait quoi, mais c'est pas le dépôt de l'information et le support de l'information qui est en jeu, à mon avis. Quelque part, si vous voulez, en France, faut quand même voir, on parle, bon, évidemment, c'est dans les émissions, on essaye de soulever un peu tous les éléments qui peuvent effrayer, mais on est quand même en France très réglementé. La CNIL est une structure qui cadre beaucoup plus que dans la majorité des pays, même pas les États-Unis, mais même européens. Donc il faut voir qu'on est dans un système qui est assez raisonnable en France comparativement à d'autres. Et je vous assure que la protection de la donnée au niveau des données de l'assurance maladie est quand même très structurée comparativement aux autres pays. Donc je pense que c'est beaucoup plus des questions d'échange de professionnels, ça il peut y avoir des fuites, oui, que la carte vitale elle-même.
Alors, on va soulever, pour terminer l'émission, le sujet qui fâche. On a parlé des assurances, les assurances pour prendre un crédit, on a parlé des banques, c'est souvent les mêmes. Mais Jean-Paul Hamon, vous avez un confrère que vous devez bien connaître, qui s'appelle Didier Levaguerès, il est également à la même fédération syndicale de médecins que vous, et qui dit « Ne soyons pas naïfs, c'est le début de la fin du secret médical dont ne vont pas manquer de profiter les payeurs que sont les complémentaires de santé. Pourriez-vous imaginer ?» Vous avez parlé de conflit d'intérêts. Que les mutuelles seraient derrière ce décret du 22 juillet dernier.
Écoutez, j'imagine plus rien, mais quand je vois les cadeaux qui ont été faits aux complémentaires depuis 4 ans, c'est absolument invraisemblable. On a imposé la mutuelle pour tous, on a permis aux mutuelles une exonération fiscale de 14% en échange d'application des contrats dits responsables qui permettent aux mutuelles justement de moins rembourser le patient alors qu'elles ont augmenté leur cotisation de 8%. On a vu Marisol Touraine, dès son arrivée au ministère, permettre aux complémentaires de ne pas afficher leurs frais de gestion alors que Xavier Bertrand venait de leur imposer. Donc, si vous voulez, il y a une succession de cadeaux aux complémentaires qui fait que maintenant, plus rien ne nous étonne. Incontestablement, quand vous pensez que Laurence Rossignol a passé 16 ans à la MNEF, un emploi fictif, qu'on a écrit ça dans le livre que j'ai écrit avec Daniel Rosenzweig il y a un an et qu'on attend toujours le procès. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné où on est quand même plus étonné de rien. Les complémentaires mènent la danse avec la bénédiction du gouvernement et pour nous, c'est un vrai scandale.
Étienne Mainviel, vous avez entendu Jean-Paul Hamon, on parle d'un des sujets qui fâchent, le dernier, les mutuelles. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, si vous voulez, je pense qu'on est dans un débat en France où on a une assurance maladie obligatoire, et puis on a les mutuelles, et puis on a des assurances privées à but commercial. On a un débat depuis une dizaine d'années sur un partage d'informations entre l'assurance maladie obligatoire et les mutuelles que je trouverais personnellement assez sain parce que on a besoin d'avoir des payeurs qui ne soient pas aveugles. À l'heure actuelle, si vous voulez, une mutuelle, elle n'a pas forcément l'information nécessaire pour comprendre quel est le parcours de ses assurés. Et c'est dommageable pour le patient parce que on se retrouve dans un système de payeurs, oui, qui répercute sans doute des contraintes financières sur les assurés, mais qui ne peut pas être parfois plus clairvoyant dans les parcours pour pouvoir proposer des besoins encore plus personnalisés. Et ça, je pense que le partage de l'information pourrait apporter quelque chose de très positif à ce niveau-là.
Mais le problème, c'est que les mutuelles aujourd'hui sont indispensables tant la sécurité sociale réduit ses remboursements année après année.
Clairement. Par ailleurs, encore une fois avec le numérique, on va certainement assister dans les prochaines années à un mouvement qu'on commence à percevoir. C'est que d'une certaine façon, les mutuelles vont être aussi sollicitées sur des services préventifs avant la maladie et avant l'assurance de la réparation. Parce qu'avec le numérique, avec les outils connectés, vous pouvez déjà commencer à voir si une personne en assez bonne santé finalement fait ses 10 000 pas par jour, a des comportements alimentaires raisonnables, etc. Et de ce fait, l'assurance complémentaire va se retrouver aussi dans de la prestation de service. Et c'est plus un parcours seulement de la réparation et du soin qui va être en jeu, c'est un parcours de vie. C'est-à-dire qu'on voit dans les expériences les plus avancées à l'heure actuelle que le métier d'assureur va certainement évoluer et que l'enjeu pour les assureurs, notamment les mutuelles en France, va être de pouvoir fidéliser ces assurés de, si je puis dire, de 17 à 87 ans. Et 27. Et donc, on va changer vraiment de registre par rapport à cette idée du payeur qui est sur la réparation.
Merci. Merci beaucoup Étienne Mainviel. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'école des hautes études en santé publique Gustave Roussy. Merci beaucoup Jean-Paul Hamou. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Mot de la fin, Benjamin Lucas.
Non, moi je crois qu'il faut à la fois pas tout mélanger et moi je ferai pas de procès d'intention sur pourquoi se décret. En revanche, il faut effectivement pas être naïf. Et dans le domaine de la santé, il y a une forte pression d'un certain nombre de lobbies, etc. Face auquel il faut être fort. Et je crois que c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. Et moi, pour finir là-dessus, moi je me bats pour une santé plus solidaire, plus démocratique et dans laquelle la sécurité sociale, qui est un grand acquis social, soit renforcée.
Voilà, Benjamin Lucas, président du mouvement des jeunes socialistes, merci infiniment. Le dernier mot, ce sera pour Claire concernant le sondage. On était à 67% tout à l'heure de non.
Eh bien, Marc, on n'a pas bougé puisqu'on est toujours à 67%.
D'accord. Très bien, 67% sur la question « Faut-il assouplir le secret médical ?» Vous dites non à 67%. Philippe David, retour demain ?
Eh bien sûr, retour demain à 9h pour deux seuls contre tous et un grand référendum.
Est-ce qu'on va à la cafette ?
On va y aller, oui.
Ah, on va à la cafette. Véronique Jacquier, dans un instant, merci de votre fidélité. Revenons juste après ceci, tout de suite.